Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour et aussi rebonjour, bon réveil si c'est le cas, oui je comprends. Culture Média en fait, deuxième heure, on y va tranquille, je sais que vous pas vous parler trop fort ce matin. Au sommaire, une chanteuse dont l'album délicat, vaporeux, aérien colle tout à fait à cette journée de Noël. Yael Naïm est avec nous. Elle a sorti Night Songs en mars dernier et participe demain sur Facebook à un concert au profit des enfants arméniens. Damien Caprespin va vous rappeler ce morceau à la renommée mondiale qui a changé la vie de Yael Naïm. Vous verrez, vous le connaissez forcément. Les indispensables du jour, Angèle Châtelier a choisi. Quels sont ses albums coup de cœur de 2020, albums musicaux, il y a des choses bien. Et puis quels sont les meilleurs jeux de société du moment? Joy Raffin s'y est penchée. Mais d'abord, série en série, où Eva Rock va-t-elle nous emmener? Culture Média. J'allais dire Culture Média jusqu'à 11h, mais vous le savez déjà, obsession, série, avec toutes ces journées passées à l'intérieur, avouez que vous êtes tombé dedans. Eva Rock a fait ses choix ce matin. Elle vous conseille une série de la côte ouest. Bonjour Eva.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Quel indice pour votre série du jour?
Une voiture américaine rutilante, décapotable noire, conduite par une femme d'un certain âge, mini chapeau et fourrure motif panthère, rouge à lèvres, rouge vif et lunettes noires. De Los Angeles, le décor de la série Hollywood, la dame parade jusqu'à la station service où travaille Jacques Costello, alors du genre beau gosse dans son costume blanc de pompiste.
Il est pas mal, ouais.
Il est pas mal, il lui demande si elle veut le plein et elle répond vouloir aller au paradis. Et à ces mots, Jacques sait qu'il doit monter dans la voiture, direction un hôtel très chic pour satisfaire la cliente qui est la femme d'un producteur qui espérait devenir actrice comme Jacques.
Vous êtes venue ici pour devenir une star de cinéma.
Comment vous savez ?
J'étais comme vous à l'époque. J'ai été actrice dans des films muets. Certains ont eu du succès. Et puis le cinéma parlant est arrivé. J'ai eu l'occasion de passer un unique essai. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place dans ces films pour les ethnies. Pour une juivesse, voilà les mots exacts qu'ils ont employés. J'ai poliment souligné que les juifs avaient bâti la ville tout entière avant qu'on ne leur montre la porte. Personne ne croyait qu'une petite juive pouvait devenir une star. Et personne ne les trouvait jolies.
Bienvenue à Hollywood, à la fin des années 40, dans une Amérique puritaine, la cité du cinéma fait presque office de paradis terrestre. Ici, on peut braver les interdits, mais seulement après 22h, et notamment autour de la piscine du réalisateur Georges Cukor, où les orgies sont prisées.
Ah ouais, orgies de tout, hein.
De tout, on est bien d'accord, mais c'est une liberté de façade, parce qu'en coulisses, les discriminations envers les personnes de couleur, envers les femmes, envers les homosexuels, vont aussi vite que ces voitures de luxe dans les allées bordées de palmiers. Archie, scénariste noir, parvient pourtant à vendre son histoire à un producteur. Son héroïne sera noire, le film sera produit par une femme, et avec au casting, un jeune inconnu homosexuel que l'agent de star Henry Wilson prend sous son aile.
Vous savez quel est mon talent? Je sais dans les 30 premières secondes si une personne a ce qu'il faut pour devenir une star. Et vous, croyez-le ou non, vous l'avez. Vous avez du potentiel pour être à l'image. Vous êtes un bon grand gaillard, mais vous êtes vulnérable. Donc les hommes ne vous verront pas comme une menace. Et les femmes et les petits minets vous imagineront en train de les fourrer. Tout le reste, on va devoir le travailler. On va vous faire prendre de la masse et il n'est pas question ici de s'enfiler des sandwichs toute la journée. Je parle de musculation sur le modèle de Charles Atlas. Vous devrez aller bronzer tous les jours et arrêter de vous ronger les ongles. On va vous faire prendre des cours d'art dramatique, on va corriger votre posture et également cette petite voix que vous avez. Elle est trop fluette. Donc la prochaine fois que vous êtes après un rhume, je veux que vous vous rendiez en montagne et que vous gueuliez comme un putois. Ça brisera vos cordes vocales et quand elles seront guéries, vous aurez un joli timbre bas de baryton.
Je devrais peut-être prendre des notes.
Il y a aussi cette question du nom. Roy Fitzgerald, ça ne passera pas. Je pense plutôt à Rock. Rock Hudson.
Rock Hudson a véritablement existé,
oui.
Et c'était un comédien d'Hollywood et d'ailleurs ça a été la première victime connue du sida. Est-ce que le personnage de Henry Wilson est réel, lui aussi ?
Oui, ce fut un célèbre agent de star et la série Hollywood signée Ryan Murphy mêle ainsi la fiction et la réalité. mêle aussi le côté glamour tendance soap opéra à un propos plus politique où il est question de ces discriminations dont ne parvient pas à se débarrasser l'Amérique. La série est en même temps une magnifique déclaration d'amour au cinéma et à l'art en général. Ryan Murphy démontre à quel point l'art peut faire évoluer les mentalités et peut faire acte de résistance.
Combien d'épisodes du côté de Los Angeles ?
Alors Hollywood est disponible sur Netflix et compte 7 épisodes. Et cette série illustre parfaitement à quel point le sujet des discriminations est devenu prépondérant dans les séries. Sur ce même thème, Pascal, je vous recommande grandement Insecure. C'est le quotidien d'Issa, alors qui est joué par Issa Rae dans le rôle principal. C'est son rôle, elle est la créatrice de la fiction. 4 saisons pour découvrir sa vie de trentenaire et ses questions existentielles avec un brin de surréalisme, c'est sur OCS. Et puis, autre série qui aborde avec humour ce thème, c'est Craignos sur France.tv, fiction hilarante de 6 épisodes, une quinzaine de minutes, signée Jean-Pascal Zadi, à qui on doit également le film Tout simplement noir.
C'était bien, Tout simplement noir.
C'était très très bien.
C'était tout simplement drôle.
Merci Pascal.
Merci à vous Eva, rendez-vous lundi, et si d'ici là je m'adresse à vous, eh bien, si vous manquez d'Eva Rock ce week-end, n'hésitez pas à écouter ses podcasts Sériland sur europe1.fr/plateforme. Qu'avons-nous fait toute cette année ? Que faisons-nous encore attendre ? Je parierais bien que ça vous est arrivé. Je parierais bien qu'à un moment donné, de confinement en déconfinement, en vrai faux reconfinement, vous avez fait ça au moins une fois. Et si ça se trouve de nuit, écoutez l'album de Yael Naïm paru en mars dernier, Night Songs, ou bien depuis l'un des 4 titres bonus. Bonjour Yael Naïm.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Culture Média en ce jour de Noël. Comment allez-vous ?
Ben, je vais bien, je vais très bien.
Très bien. Comment faites-vous pour aller très bien ? Moi, ça va. Est-ce que le Père Noël a été sympa ?
Non, en fait, comment je fais pour aller bien ? C'est une vraie question en ce moment. Je pense qu'à force d'avoir des allers-retours, des attentes, des frustrations, des colères, de la peur, voilà, tous ces sentiments qu'on a tous vécus, c'est une philosophie qu'on entend souvent, même hors période extrême. Mais dans des périodes extrêmes, c'est encore plus utile de l'appliquer. J'ai décidé que je vais aller bien, quoi qu'il se passe.
Ah, voilà, c'est vrai ?
J'avais plus envie de... Oui.
Et ça fonctionne ?
Pas toujours. Mais non, mais ça a augmenté le sentiment général. C'est-à-dire, ça va bien tant que... J'ai l'impression que tant qu'on est... C'est-à-dire, alors malheureusement, il y a quand même un vrai problème de santé avec des gens qui meurent. Mais pour ceux qui ont gardé encore la santé, tant qu'on a ça, on peut réagir, on peut reconstruire ce qui a été déconstruit. Et donc, voilà, je me suis mis ça comme base.
Est-ce que habituellement vous aimez cette période de fête, Noël, le Nouvel An, et en l'occurrence, cette année, que pensez-vous de cette ambiance mi-figue, mi-raisin, mi-fête, mi-raison ?
Habituellement, oui, même si j'ai découvert tout ça très tard, parce que j'ai vécu en Israël toute mon enfance, donc je n'ai pas connu Noël. Je l'ai connu avec ma famille ici, la famille que j'ai construite. Et habituellement, oui, j'adore ça, parce que c'est chouette de pouvoir... se réunir, faire un break, offrir des choses aux gens qu'on aime. Et en ce moment, c'est un tout petit peu bizarre parce que la plupart des gens ne peuvent pas se réunir avec les gens qu'ils aiment et c'est chiant.
Ouais. Bah maintenant, vous faites à la fois Hanouka et Noël, j'imagine.
Oui, c'est ce que j'ai toujours fait.
Alors, quelle drôle d'année, hein, Yael Naïm, drôle comme on dirait bizarre. En mars, vous aviez sorti cet album tellement important, j'imagine, pour vous, parce que c'était votre premier album fabriqué seul, face à vous-même, et que vous n'avez pas vraiment bien pu le défendre, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il est sorti dans la semaine du premier confinement.
Oh.
Donc, très étrange. Évidemment qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on le repousse ou pas ? Mais je pense que personne ne mesurait l'ampleur encore de ce que ça allait changer dans notre vie. Et comme moi-même, je l'ai vécu, cet album, dans une forme d'isolement, je me suis dit, ok, peut-être c'est comme ça qu'il doit sortir. Et donc voilà, donc ça a accompagné les gens chez eux dans une période un peu spéciale de confinement. Et évidemment que ça a aussi vécu les conséquences du fait qu'on n'a pas pu faire toute la promo et toutes les frustrations qui vont à côté.
Alors pardon de le remarquer, vous n'y pouvez rien, mais c'est vrai que rétrospectivement, ces morceaux de Night Songs ont tellement bien collé à cette solitude imposée par la situation. Il y avait un côté prémonitoire là-dedans, mine de rien.
Non, je n'irai pas jusqu'à là. Je pense que c'est des périodes qu'on peut traverser autant qu'être humain, qu'on a besoin de créer une transition intérieure. C'est aussi dans d'autres cultures, je me suis pas mal documentée, il y a d'autres cultures où on envoie les gens dans les périodes un peu de transition à faire une marche dans le désert, à s'isoler pour se retrouver puis revenir avec son nouveau soi. Donc. Et je pense que quand on est affronté, comme je l'étais à la mort de mon papa, à la naissance de ma deuxième fille, à des questions fondamentales comme ça dans la vie, en tout cas face à la vie et la mort, et le fait qu'on n'est pas éternel ici, dans cette forme-là de vie, ça amène à vouloir se réajuster dans la vie. Donc ça peut être pas confortable pour soi-même, pour l'entourage. Et...
Ouais, cet album venu du fond de vous-même, il était sans doute délicat et peut-être même douloureux à sortir, à écrire. Mais après coup, est-ce que vous vous êtes senti délestée ?
Complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour moi qui remplace le fait de trouver les mots à des sensations, des sentiments qu'on vit, réussir à les exprimer et à les partager, en fait, à oxygéner tout ce qu'on traverse, à le partager et à voir qu'on n'est pas si isolé et pas si seul face à des choses qu'on pense vivre dans son coin. Et aussi artistiquement, le fait d'avoir pris ce risque-là, de m'être enfermée dans mon studio et avoir amené cet album de A à Z avec toutes les facettes techniques que j'avais l'habitude de partager avec David, avec moi-même, j'ai tellement adoré. J'ai adoré même les moments difficiles. C'est-à-dire que j'ai ressenti... C'est comme mon deuxième accouchement, je l'ai fait sans péridurale, en me préparant vraiment bien.
Sérieusement ?
Et j'ai adoré sentir cette douleur. C'était une expérience incroyable.
Ah oui, pardon.
C'est un mot un peu général, mais...
Là, on est dans des considérations très intimes, mais pourquoi ce choix ?
Parce que j'avais la frustration de... Oui, encore une fois, c'est intime, mais beaucoup de gens vivent ça. C'est quelque chose de très naturel en même temps. Je pense que juste, j'étais... La première fois, je ne me connaissais pas, donc j'avais peur de jouer avec peut-être mes limites. Et je n'étais pas dans un cadre qui me permettait jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, de prendre la péridurale, par exemple. Mm-hmm. Et la deuxième fois, j'étais dans un cadre beaucoup plus, on va dire, un hôpital qui était pro-accouchement naturel, qui m'a aidée. Et jusqu'à la dernière seconde, si c'était trop douloureux, j'aurais pu la prendre. Donc juste cet apaisement-là, le fait de savoir que j'ai un parachute, si c'est trop... ça m'a permis d'avoir moins peur et de me dire, ok, tant que je peux, j'y vais.
Mais vous ne l'avez pas demandé, in extremis.
Non, parce que je pense que c'est aussi une question de préparation psychologique, de mettre une explication sur la douleur. C'est un muscle qui se contracte, qui se décontracte. C'est juste un muscle. Donc je pense qu'en général, ce qui est le pire dans la vie, c'est de ne pas savoir et d'être face à une peur qui n'a pas de forme.
L'inconnu.
Encore une fois, comme dans l'inconnu, donc comme dans la transition que j'ai vécue, le fait d'être face à l'inconnu, encore une fois, la mort, la naissance, c'est quelque chose qui peut vraiment nous contracter et amplifier la douleur. Et quand les choses commencent à être un peu plus compréhensibles, qu'on comprend que c'est une transition qui va avoir une fin, qu'on comprend que c'est une douleur qui va aussi... qu'on comprend ce qui nous arrive physiquement, je sais pas, c'est beaucoup moins effrayant. Et du coup, c'est juste une douleur locale et c'est OK.
Je pensais pas qu'on parlerait de ça ensemble, mais je trouve ça très intéressant.
Moi non plus, mais je trouvais que c'était un parallèle. c'est venu comme ça. Bon.
Rapidement, parce qu'on va marquer une pause, attendre, c'est le titre qu'on vient d'entendre, attendre. Qu'attendez-vous surtout en ce moment, la scène, c'est ça ?
Ce que j'attends, c'est que je pense que... C'est-à-dire c'est ce qui est en train de se passer, mais que le monde culturel se renforce les liens, que nous, entre artistes, on renforce les liens, même qu'on
qu'on se regroupe, qu'on soit solidaire.
Qu'on se regroupe, voilà.
Que vous soyez solidaires.
De la même manière qu'on se fait finalement avoir par le fait qu'on donne le pouvoir aux géants, c'est-à-dire que, tous aux Amazon, etc., que ce soit pour la nourriture, pour la musique, pour... peut-être retrouver un peu ce lien direct entre nous, entre les gens, entre les humains.
Ça viendra peut-être. On va marquer une pause ensemble, Yael Naïm, et revenir sur votre carrière avec un moment clé que va nous décrire Damien Caprespin. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Ça s'est joué pour vous à l'été 2007, Yael Naïm, et cet été-là est né de votre collaboration avec le musicien et producteur David Donatian, qui est aussi votre mari ou votre conjoint, je ne sais pas, une sorte de pépite qui vous a propulsé dans une autre galaxie. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour.
N'est-ce pas ?
Quelques notes de musique peuvent parfois changer une vie, celles de New Soul ont bouleversé la vôtre, Yael, c'était en 2007.
I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take.
Une chanson écrite fenêtres ouvertes dans votre appartement de la rue Keller, dans le quartier de la Bastille, à Paris. Un air optimiste qui s'est transformé en tube planétaire et vous a révélé au grand public. Pourtant, souvenez-vous, vous n'étiez pas vraiment au top à ce moment-là, Yael. Vous sortiez d'une rupture amoureuse. Vous étiez persuadé que vous pouviez dire adieu à vos rêves de jeune fille qui se voyaient déjà en haut de l'affiche.
I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake.
Oui, mais voilà, avec votre voix qui enveloppe l'auditeur, avec vos la-la-la qui donnent envie de chanter en chœur, avec, il ne faut pas le nier, un gros coup de pouce du blogueur star de l'époque, Perez Hilton, qu'on a un peu oublié depuis, et puis avec une publicité pour une marque d'ordinateur qu'on ne va pas citer, mais qui a propulsé le titre dans les télés du monde entier. Tout ça a fait que New Soul est devenu un hymne à la douceur, à la joie de vivre et à l'espérance. Dans cette chanson, une âme toute neuve découvre le monde et apprend à donner et à recevoir. 13 ans plus tard, on veut bien le même programme. New Soul vous a fait connaître dans le monde entier, Yael, au Japon, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis ou en Autriche. Tout le monde est tombé fou amoureux de votre tube.
This is a happy end, 'cause you don't understand.
Alors après toutes ces années, cher Yael Naïm, j'espère que vous n'en avez pas marre de l'écouter, que je vous en reparle encore aujourd'hui. New Soul est un hit qui fait du bien. Et d'ailleurs, à vrai dire, j'ai encore envie d'en écouter un petit extrait. Vous êtes d'accord, Pascal ?
Oui !
Alors ok, on y va.
I'll take you far away. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love feel, finding myself making every possible mistake.
Et merci beaucoup Damien Caprespine, grâce à vous nous allons avoir New Soul dans la tête au moins jusqu'à la fin de l'année.
J'espère.
Yael Naïm, un tel tube planétaire, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est une plaie ?
Non, c'est une chance évidemment, parce que c'était pas attendu, parce que ça a permis, je pense que sans cette chanson, l'album aurait peut-être fait son chemin, sans doute, mais cette chanson, elle nous a tout d'un coup fait voyager au Japon, au Brésil, au Mexique, c'est-à-dire dans tellement de pays dans le monde, et découvrir tellement de cultures. Et du coup, les gens qui avaient envie de suivre le reste, ben, ont découvert le reste, et ceux qui avaient envie de s'arrêter à New Soul, ils ont tout à fait le droit.
Mais c'est vrai qu'elle est irrésistible. Elle est irrésistible, on ne va pas dire le contraire.
Oui, et puis je l'adore. C'était la fin, c'était le début du soulagement et peut-être de l'acceptation que la vie est comme elle est, qu'elle n'est pas parfaite, que je vais tomber, que je vais me relever. Et c'est probablement pas un hasard que c'est cette chanson-là qui a fait démarrer tout.
Mmh. Et la fameuse pub comme support, vous aviez hésité à l'époque ?
Non, parce que encore une fois, pour nous, c'était comme une fenêtre. C'est comme passer à la radio. Ben, on a une fenêtre en forme de pub où les gens dans le monde entier peuvent découvrir notre musique. Et on savait à l'époque que cette marque-là avait une exposition incroyable dans le monde entier. Donc on était juste contents. Voilà. Et puis effectivement, c'est vrai que les ordinateurs et la musique, c'est quelque chose qui est lié. On travaille, on produit notre musique comme ça. Donc il y avait un lien, c'était pas comme si on a fait une pub pour un truc qui était contre, on va dire, contre des valeurs fondamentales.
Mm-hmm.
Ça n'a pas été jusqu'à là.
Ouais. Yael Naïm, vous avez une formation classique, hein, 10 ans de piano classique au conservatoire, je crois que c'était en Israël. Avez-vous gardé une première impression, vous et le contact du piano enfant, vous avez un souvenir très très précis de ce moment-là?
Je jouais un peu l'orgue, on avait un vieux orgue de maison Et mon père avait la clairvoyance de me dire, si tu veux te développer, il faudra un vrai piano, parce que c'est un instrument qui est vivant. Et mes parents, qui n'avaient pas d'argent, se sont endettés pour m'acheter un piano qu'ils ont mis dans ma chambre. Donc ce n'était pas le meuble pour montrer aux invités que la petite fille sait jouer, c'était mon instrument, il était dans ma chambre. Et je n'ai plus jamais pu quitter le piano, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment me tirer de là pour aller manger, pour aller à l'école, pour faire le reste. Et heureusement, j'avais une certaine facilité à lire des partitions, à entendre les choses et à les reproduire au piano. Et puis très vite, je commence à composer. Donc c'est devenu, moi qui étais très timide, j'avais toujours une ou deux copines, mais je n'étais pas du tout mélangée dans les groupes. Bah, tout d'un coup, c'était un lien direct avec moi-même et c'est quelque chose qui m'a aussi permis de me connecter aux autres.
Ouais.
Donc c'était vraiment très fort. Ouais.
Alors plus tard, il paraît que vous avez fait partie d'un groupe quand vous faisiez votre service militaire, c'est vrai ?
Oui, en fait, j'étais chanteuse pendant le service militaire. Et en parallèle, j'avais monté un groupe de rock pour commencer à faire ma musique. Et, c'est-à-dire pour continuer à faire ma musique, mais en forme de groupe de rock. J'avais envie de partir parce que la musique que j'aimais, elle se passait ailleurs. Et j'avais envie de découvrir le monde, découvrir d'autres cultures et de sortir de ce petit pays qui est merveilleux, mais qui est quand même un tout petit pays où c'est un peu difficile de rencontrer des gens qui viennent partout, etc.
Ouais, et j'imagine qu'à l'époque, vous n'étiez pas en mesure d'imaginer tout ce qui allait vous arriver, probablement au-delà de vos espérances. On va marquer une nouvelle pause, et Elnaïm, merci de rester là, on revient tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Pascal Clark.
Yael Naïm, vous l'avez forcément remarqué, les retours critiques sur votre album Night Songs ont été excellents. Et comme il s'agissait d'un album très personnel, on l'a déjà dit, ça fait forcément plaisir. Est-ce que ça donne confiance aussi ?
Ça fait énormément plaisir. Et effectivement, j'étais dans un état un peu fragile, donc ça m'a vraiment touchée, tout simplement. Vraiment, vraiment. Encore plus que d'habitude. Et puis après, est-ce que ça m'a rassurée ? C'est-à-dire, malheureusement, je suis un peu... peut-être dans le mur, des fois. C'est-à-dire que, des fois, si j'ai besoin de faire un truc, même si je me cogne contre le mur, il faut que je le fasse. Donc, voilà.
Ah oui ?
Ouais, c'est ça.
Mais vous avez encore besoin... Ouais, vous avez encore besoin de confiance comme d'un carburant ?
Je sais pas. Je pense que j'ai besoin d'une bonne dose de frustration et de quelque chose d'impossible. C'est-à-dire, si on me dit que quelque chose est impossible à faire, j'arrive pas à concevoir que les choses sont impossibles. Et donc, c'est quelque chose qui m'alimente vachement. Et après, il faut quand même une petite dose de... Faut pas rentrer dans le désespoir non plus. Faudrait que... Mais après, c'est des fois, vous savez, c'est la petite voix. On en a tous une. Des fois, la petite voix, elle va contre la raison ou contre ce que l'entourage nous conseille. Parce que c'est la petite voix, souvent, elle nous fait prendre des chemins que personne d'autre a pris avant vous. Donc, il faut créer son propre chemin. Donc, on ne peut même pas copier un tel ou un tel qui a déjà fait ça de cette manière parce qu'on n'est pas constitué de la même manière. On n'a pas les mêmes conditions de vie, etc. Et donc, cette prise de risque de prendre un chemin que personne n'a pris avant... les gens veulent te protéger, donc je pense qu'en général, voilà, c'est plus ça qui m'appelle et qui fait que, avec leur inconfort, des compliments et de quelque chose de ou sans, à un moment, je suis face à l'évidence qu'il y a quelque chose qui me pousse à aller vers une direction et j'y vais. Mmh.
Est-ce que hypersensible, ça vous colle comme mot pour vous décrire ?
Je sais pas, faudrait demander aux autres, non ?
Bon, d'accord. Alors attendez, comme on est le jour de Noël, il y a quelque chose d'important. On est vendredi, maintenant qu'on a bien mangé et bien bu, que va-t-on faire aujourd'hui ou plus tard d'ailleurs pendant les vacances ? Eh bien, nous allons jouer si possible. Bonjour Joy Raffin.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Alors au programme ce matin, donc des jeux de société ou comment ne pas s'ennuyer pendant les vacances.
Oui, ou aussi comment égayer un peu votre après-midi de Noël. Si, soyons honnêtes, l'ambiance n'est pas à la fête.
Alors, on le sait, pendant le premier puis ce second confinement, enfin je dis second, ça voudrait dire que c'est le dernier, on n'en sait rien, la vente des jeux de société a explosé. Et vous allez nous dire quels sont les jeux qui cartonnent, ceux que vous nous conseillez, mais aussi ceux qui sont proscrits.
Ah bah oui, parce que geste barrière oblige, autant vous dire tout de suite que le Scrabble, auquel je jouais beaucoup avec mes grands-parents, où tout le monde plonge sa main, vous savez, dans un sac et touche et retouche toutes les lettres, eh bien, on oublie tout de suite. Le Scrabble n'est pas Covid-free, les amis. On ne joue pas non plus au Jungle Speed, le jeu de cartes où il faut se ruer sur un totem lorsque deux joueurs ont des cartes similaires, à moins de désinfecter le dit totem avant de l'attraper à chaque fois, ce qui enlèverait tout le côté speed du jeu. Donc c'est non. Les jeux de cartes en tout genre, avec pioche et échange, pareil, hein, c'est fini. Et alors Pascal, désolé de vous décevoir, mais le poker, bon, c'est ok si et seulement si il n'y a qu'un seul donneur et qu'on change le paquet de cartes à chaque tour. Et encore, je suis sympa, j'évite la question des jetons, hein, parce que bien sûr, vous vous désinfecterez les mains bien avant de miser, je vous connais.
Oui, mais on peut jouer avec des gants, non? C'est pas possible, ça?
Ah bah si, tout à fait.
Bon, parce qu'on peut pas vivre sans poker. Bon, du coup, il nous reste quoi?
Ah, alors figurez-vous que le jeu qui cartonne en cette fin d'année, ce sont les échecs. Et ce, grâce au carton de la série américaine The Queen's Gambit, le jeu de la dame, avec Anya Taylor-Joy, diffusé cet automne sur Netflix. Depuis la série, on a observé une augmentation des ventes de 125%. C'est quand même pas mal. Et alors, les échecs, vraiment, c'est top. C'est un jeu hyper safe en thème de gestes barrières.
Les échecs ?
Ah bah oui.
Ah bah oui.
Aucun problème.
Mm-hmm.
Puis alors, en plus, c'est un jeu qui apprend la concentration, enfin, développe la mémoire, les stratégies. Il y en a à tous les prix, c'est la mode du moment. Les échecs, on valide.
Et s'il y a... Il y a aussi ce qu'on appelle Joy, les classiques jeux
oui.
plateau ou jeux d'ambiance. Succès indémenti.
Bien sûr, l'Hexagone est le premier marché européen.
Oui, j'ai dit indémenti, j'ai le droit d'inventer des mots.
Mais oui.
Succès non démenti.
Mais d'ailleurs, je n'ai rien dit, je vous laisse dire ce que
j'ai
vous
compris,
voulez.
Oui, exactement.
On a tous compris. L'Hexagone est le premier marché européen pour le jeu de société. L'an dernier, ce sont quelque 19 millions de boîtes de jeux quand même qui se sont vendues en France. Et alors, le millésime 2020 promet d'établir un nouveau record. Et bien, dans le top 10 des jeux les plus vendus, on retrouve les indémodables, la bonne paye, le Uno.
Le Uno.
Mais oui, le Uno, on oublie hein, en ce moment, parce que les cartes, tout ça. Le Cluedo, le Puissance 4, le Blanc Manger Coco. Alors, le jeu au nom le plus raciste qui soit, hein, dont le principe...
Oh, ça existe encore.
Eh oui, et ça cartonne. Et le principe, c'est de faire les meilleures phrases possibles avec des cartes tirées au sort. Et bien sûr, le Monopoly qui revient tous les ans avec une nouvelle version de son jeu. L'an dernier, c'était le Monopoly Tricheur, hein, d'où le meilleur tricheur gagnait vraiment la partie, édition que je vous recommande vivement pour l'avoir acheté. Cette année, ils ont édité le Monopoly Mauvais Perdant. Donc ça promet aussi d'être un succès, mais là, je n'ai pas encore testé. Si vous cherchez un cadeau à me faire, on ne sait jamais.
Oui, parce que vous êtes mauvaise joueuse ou mauvaise perdante.
Non, je n'aime pas perdre, c'est différent.
Ah d'accord.
Ça n'a rien à voir. Bref, non, pour finir, il y a un autre boom de jeux de société dont je tenais absolument à vous parler tellement j'ai halluciné. C'est l'engouement pour les jeux de société médicaux. Eh oui. Alors bien sûr, le Docteur Maboul est indétrônable, hein, c'est un classique du genre. Mais de nouveaux jeux cartonnent comme Dr Good, sous-titré « Il n'y a pas d'âge pour jouer au docteur ». Donc ça, c'est le jeu du...
C'est limite, voilà. Franchement.
Oui, avec ouais. Le ton, c'était limite. Donc ça, c'est le jeu du médecin le plus médiatique de France, Michel Simès. Le but pour les joueurs est de tester leurs connaissances sur le corps humain, la santé, le bien-être, l'alimentation. Ok.
Ben voilà, c'est tout, Joy.
Ben non.
Ah d'accord, j'ai une relance là.
Ben oui, une relance à faire là.
Ah oui, là je
parce
dis...
qu'il y a un jeu de malade, Pascal.
J'ai dit génial, ce jeu existe vraiment.
Non, vous dites pas ça. Vous dites, mais surtout, il y a un jeu de fou en cette fin d'année.
Je sais plus où
et
je suis.
Et ce
là.
Jeu s'appelle Pandémique. C'est
ah,
ça le
d'accord,
jeu de malade.
Le jeu Pandémique.
Le
ouais.
jeu Pandémique. Donc c'est un jeu sorti en fait il y a une dizaine d'années, mais que les gens s'arrachent cette année. Alors le pitch, les joueurs doivent tenter ensemble de vaincre une maladie qui s'est répandue sur la Terre en incarnant des médecins et des scientifiques.
Alors, sérieusement.
Non mais c'est un truc de dingue. Alors pourquoi un tel succès? Selon le directeur marketing du groupe qui édite Pandémique, le jeu est positif. Car même si on ne gagne pas à tous les coups, il montre qu'on peut s'en sortir. Et surtout, les joueurs ont un rôle actif dans la lutte contre la pandémie. Ben oui, alors Pascal, en plein Covid, moi j'ai qu'une envie pour m'amuser un peu, ben c'est de me faire un petit jeu qui tourne autour de la pandémie.
Ben merci voilà. beaucoup, merci beaucoup Joy. Et puis évidemment, quand vous jouez, surtout à des jeux de société, le masque et les gestes barrières.
Oui, toujours, restons prudents.
Yael Naïm, vous êtes joueuse ou...
Pas du tout. Mais alors tellement non.
Ah d'accord,
je suis vraiment chiante.
Oh, tellement non. Ouais. Bah, non. Donc
c'est pas grave, Yaël, c'est pas grave.
Non, il y en a quelques-uns que j'aime bien, mais okay. Non.
Vous êtes une artiste engagée, Yaël Naïm. Je sais bien que le mot est un peu galvaudé, mais pour le coup, c'est vrai. Hein. Vous soutenez Solidarité Sida, Amnesty International, et vous êtes aussi derrière le peuple arménien. Un grand concert sera en ligne samedi, c'est-à-dire demain, sur Facebook, dès 21h. Avec notamment, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y a une belle affiche, Yarol Poupeau, Gaël Faye, Sébastien Tellier, Cocoon, et pas Cocoon. Beaucoup d'artistes internationaux en faveur de la jeunesse arménienne. On va écouter un extrait de votre performance. Voici Nowhere.
So hard to bear, wishing that we could simply share all the troubles that you hold. If you dare, letting yourself go, letting yourself go.
Nowhere. De qui est ce titre, Yaël Naïm?
De moi-même.
Ah, c'est un de vos titres, d'accord.
Mais ouais. Il est inédit, il est dans aucun album.
Ah ben c'est pour ça que je ne le connaissais pas. Vous l'avez composé spécialement? Non, c'est juste un
non,
titre nouveau que vous avez offert.
J'avais envie de quelque chose de différent et d'unique que je n'ai pas fait avant.
Vous n'hésitez jamais à vous engager? Comment choisissez-vous vos causes, si j'ose dire?
Alors, souvent, je suis approchée et donc je regarde évidemment quelle est la cause et le sérieux de la cause. Et donc, j'ai souvent envie de dire oui, en tout cas, parce que c'est le peu qu'on peut faire. Et après, parfois, j'essaye moi-même d'initier des choses, mais c'est vrai que c'est des fois plus difficile. Donc, je suis heureuse qu'on me sollicite et je suis heureuse de répondre oui.
Ouais, je voudrais qu'on réécoute ensemble un moment extrêmement marquant. C'était hélas à l'occasion d'une circonstance dramatique, novembre 2015. Et vous aviez été choisie en compagnie de Camilla Jordana et Nolwenn Leroy pour l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris dans la cour des Invalides.
Quand on n'a que l'amour à offrir en prière, pour le mot de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nul autre que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson.
C'était un moment, hélas, indélébile. Est-ce que pour vous aussi, ce moment-là est resté indélébile, Yaël Naïm?
C'était un moment très triste et douloureux et très difficile aussi, parce que lourd de responsabilité. Je trouve que la musique et l'expression artistique permet souvent d'exprimer, en tout cas de se réunir et d'exprimer des sentiments qu'on peut avoir au commun,
ouais.
Qu'ils soient des sentiments de joie extrême ou des sentiments de deuil national.
Oui, vous vous dites donc que c'était... votre voix sert à ça aussi.
Oui, la mienne, ou juste le rôle de la musique, le rôle de l'expression artistique en général dans les cultures. La musique a toujours rempli ce rôle-là. Donc aujourd'hui, avec le monde des affaires et l'industrie de la musique, tout d'un coup on s'est éloigné de ça, mais à la base la musique et l'art servaient à ça aussi, surtout.
Je voulais vous faire écouter une autre voix qui hélas vient de disparaître.
Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Venismecha. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava,
Hagila Venus Mecha Havanera Nena Havanera Nena Havanera Nena Venus Mecha Havanera Nena Havanera Nena Havanera Nena Venus Mecha.
Voilà, en hébreu, pardon, je ne parle pas hébreu, mais je vais dire Hava Nagila, c'est ça?
Ouais, ça veut dire let's be happy, let's be.
Réjouissons-nous, let's... oui. Est-ce que vous connaissiez Reka Zaraï?
Pas de nom, parce que forcément, quand on arrive en France et qu'on est israélienne, on... c'était un repère.
Ouais.
Donc, c'est un peu inévitable. Mais après, je suis désolée ouais. qu'elle est partie.
Il paraît qu'elle a une fille qui s'appelle Yael, hein, je vous le dis au passage. Ouais. Est-ce que vous chantez tous les jours, Yael Naïm? Tous les jours, vous chantez, même pour vous, même pour vous dans la vie?
Tous les jours, je m'exprime en forme artistique. Donc il y a des jours où ça va être peindre, des jours où ça va être enregistrer des instrus ou des arrangements, ou produire, ou tripoter mon piano, ou chanter. Voilà.
Ouais.
C'est ça. Ça peut être aussi prendre la photo. En ce moment, j'aime bien prendre la photo ou écrire des petits scénarios pour des courts-métrages que j'ai envie de faire. Donc c'est juste une forme, toutes les formes d'expression artistique.
Mmh. Sinon, vous vous sentez mal?
Ouais, c'est des habitudes que j'ai prises, vous imaginez, depuis que j'ai 9 ans.
Oula.
Donc c'est un peu comme quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport tous les jours. Je peux m'arrêter, évidemment, un jour, deux jours, trois jours pour faire autre chose parfois, mais ça fait partie de mon quotidien. Oui. Mmh. Et puis après, j'organisais ma vie quand les enfants vont à l'école, de 9h à 5h, je suis dans mon studio et je fais des trucs, donc je travaille. Et quand je suis en vacances ou en week-end, je fais d'autres trucs, mais avec les enfants. Donc je vais peindre parce que j'aime peindre, mais les enfants vont peindre à côté de moi. Et on va faire des choses ensemble. Mmh.
Mais je vous souhaite une belle journée de Noël, Yael Naïm. Vos deux petites filles doivent être émerveillées aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe normalement. Merci à vous. L'album Night Songs plus le 4 titres Unreleased New Songs. Ces deux albums-là sont évidemment disponibles. Et réécoutez ça de nuit ou pas forcément. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Yael Naïm. Bonne journée.
Merci. Et puis rappelez quand même aux gens de se connecter
oui.
pour faire
demain,
un don.
Voilà. 21h pour la jeunesse arménienne. Exactement. C'est sur YouTube, hein, vous le trouverez.
Il faudrait faire un don pour aider parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sans abri et qui en ont besoin.
Exactement. Merci à vous, Yael Naïm. À suivre Angèle Châtelier pour ses coups de cœur musicaux de l'année 2020. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Pascal.
Oui, il y a eu du bon en 2020, la preuve en musique.
Et oui, cette année est loin d'avoir été la meilleure, mais il y a quand même eu de très bons albums, à commencer par The New Abnormal, le 6e album des Strokes qui était sorti en avril. Les Strokes ont été parmi les derniers à fouler la scène de l'Olympia avant la pandémie. C'était le 18 février dernier. Un concert terriblement attendu par les fans, tant voir les Strokes dans une salle de seulement 2000 personnes est une chance inouïe. C'est avec beaucoup de nostalgie que je m'en souviens moi-même de leurs prestations qui mêlaient leurs plus grands tubes aux retentissantes chansons de ce nouvel album comme Brooklyn Bridge to Chorus. I want new friends, but I don't want me. They have some fun. Ce nouvel album des Strokes est nommé dans la catégorie meilleur album rock de l'année 2020 au prestigieux Grammy Awards.
Et même un peu chez nous.
Hein. Et oui.
Côté francophone, que retenez-vous de cette année 2020, Angèle?
2020, alors on aurait pu citer Yael Naïm et son très beau Night Songs, Benjamin Biolay et son album Grand Prix, mais alors la révélation 2020 s'appelle Loose and the Yakuza. Encore inconnue il y a un an lorsqu'elle se produisait au Transmusical de Rennes. Mais alors depuis octobre et la sortie de son album appelé Gore, la Belge de 24 ans est partout sur les ondes comme dans les magazines. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Gore parle aussi bien du viol, du harcèlement, du fait d'être une femme noire dans la société. Et Loose and the Yakuza le fait avec une telle aisance qu'il y a quelques semaines, elle a même été invitée à faire une performance dans la célèbre émission américaine de Jimmy Fallon, le Tonight Show. Chapeau l'artiste. Oh, oh, amigo, amigo, oh.
plongez-vous dès que vous le pouvez dans cet album de Loose and the Yakuza. Enfin, Angèle, les fans de Tame Impala aussi peuvent remercier l'année 2020.
Et oui, avec la sortie de The Slow Rush, leur 4e album. Nommé également Grammy Awards, mais au moment de sa sortie, il avait aussi plu en France, aux Français, pardon, en témoignent ces trois personnes que l'on avait interrogées.
Dans ce nouvel album de Tame Impala, je pense que Kevin Parker, quand il l'a produit, il a pris tout ce qu'il y avait de meilleur dans le titre The Less I Know The Better et il l'a mis dans l'album. Voilà, c'est tout simplement parfait.
Kevin Parker a produit des sons plus dansant pour moi et beaucoup plus groovy. En fait, c'est le prolongement de son style.
J'ai beaucoup aimé ce dernier album. Je l'écoute aussi bien le matin pour me réveiller parce que ça me met dans un espèce de spleen que j'adore, que le soir pour passer voilà, une soirée tranquille chez moi ou avec des amis. Et, ouais. C'est un des artistes les plus inventifs de ces dernières années.
Merci beaucoup Angèle Châtelier pour cette petite réhabilitation de 2020. Oui. C'est l'heure de première page pour terminer. Comment commenceront les livres que vous lirez à partir de janvier? Ce matin, La vengeance m'appartient de Marie-Anne Dye, apparaître le 7 janvier chez Gallimard. Première page. L'homme qui, le 5 janvier 2019, entra timidement, presque craintivement dans son cabinet, Maître Suzanne sut aussitôt qu'elle l'avait déjà rencontré longtemps auparavant et en un lieu dont le souvenir lui revint si précisément, si brutalement, qu'elle eut l'impression d'un coup violent porté à son front. Sa tête bascula légèrement en arrière, de sorte qu'elle ne put répondre tout de suite au bonjour, un murmure embarrassé de son visiteur et qu'une gêne dura entre eux, même après que Maître Suzanne se fut ressaisie, l'eut saluée aimablement, souriante, cordiale, rassurante, comme elle se faisait un point d'honneur de l'être d'emblée envers quiconque venait la voir au cabinet. À deux reprises, elle se frotta le front machinalement, croyant avoir là une sourde blessure, puis n'y pensant plus. Lorsque le soir, assise dans son lit, elle lèverait de nouveau une main lente et lourde vers son front avant d'arrêter son geste, puisqu'elle n'éprouvait en vérité aucune douleur. Elle se rappellerait brusquement comme elle avait... comme elle avait quoi. Ainsi commence La vengeance m'appartient, signée Marie-Anne Dye, apparaître le 7 janvier chez Gallimard. Culture Média, de fait, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi dès 9h du matin. Nous serons en compagnie du journaliste de Télérama Olivier Tesquet, du journaliste en ligne Vincent Glade et de la chanteuse Camille Lelouch. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Passez un excellent week-end et on se donne rendez-vous lundi. Bye bye.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs? Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.